Un rugissement de bienvenue salua l'entrée de l'homme au torque, qui bomba le torse et les biceps avec une grotesque gloriole. Tout en lui tapant dans le dos, le jeune ouroman cria quelque chose qui souleva des rires féroces. Le frère sergent ne comprit que trois ou quatre mots à propos de 30 esclaves à livrer. Il se sentait si oppressé par la menace tapageuse de cette assemblée qu'il ne parvenait pas à se concentrer. Certes, ces hommes étaient moins nombreux que ceux du rez-de-chaussée, mais un coup d'œil suffisait à les deviner infiniment plus dangereux. Malgré leur grossièreté et leurs mufles couturés, beaucoup avaient des prétentions à la superbe. Les gros pommeaux de leurs épées étaient sertis de pierres précieuses. Les lames de leurs haches se trouvaient niellées de motifs entrelacés. La plupart portaient des harnois composites, formés pour partie d'équipements ouromans et pour partie d'armures bromaloises. Une profusion de bijoux chargeait leurs torses, leurs poignets et leurs mains. Un certain nombre étaient d'âge mûr, et la matoiserie affleurait parfois derrière leur manière fruste. Tous respiraient l'arrogance et la cruauté. Craintivement, l'ermite et le frère sergent se serrèrent l'un contre l'autre. Ils se trouvaient jetés en pâture à la noblesse des clans. La peur brouillait tant les idées de Widmer qu'ils ne comprirent rien de ce que le jeune ouroman déclara d'une voix forte en se tournant vers eux. Tout en soutenant toujours son vieux compagnon, le sergent du sacre rentra la tête dans les épaules, s'attendant à de nouveaux coups s'il n'avait pas compris un ordre quelconque. Mais nulle brimade ne vint. Le propos semblait plutôt adressé à la meute malfaisante. La gaieté retomba parmi les barbares. Le frère sergent croisa des regards perplexes ou méprisants et se sentit plus que jamais sur la sellette. Une querelle éclata entre quelques chefs de clan et le jeune compagnon de Gruffudd, mais cela inquiéta moins Widmer qu'un personnage qu'il venait de découvrir. Vers le fond de la salle, un véritable colosse s'était posé sur un coffre au pied de l'entassement de meubles. À la différence des autres ouromans, ce géant se tenait tranquille, raison pour laquelle il n'attirait guère l'attention de prime abord. Mais sa placidité et l'énormité de sa carrure contrastaient tellement dans le désordre général qu'elle finissait par lui conférer de la présence. En outre, il était le seul à être complètement chenu, ses cheveux filasses d'un blanc jaunâtre le faisant paraître plus vieux que le reste de la horde. Cet ancien avait le mufle balafré par tout un réseau de tatouages et de cicatrices. Une arcade sourcilière enfoncée et sa paupière à demi-close lui donnaient l'air borgne. La moitié d'un lobe d'oreille lui manquait également. Seul à ne pas brailler ou s'agiter, il restait à part. Sa stature, son immobilité et son âge lui conféraient presque l'aura d'un chef. Et cela ne fit qu'accroître les alarmes de Widmer, car cette hure couturée transpirait surtout l'imbécilité. Le jeune ouroman venait de calmer les chicanes par des plaisanteries qui avaient soulevé des rires, y compris chez ses détracteurs.
« Quel tas de gros connards !»
s'esclaffa-t-il en s'exprimant soudain en léonien. Puis, retournant à son dialecte, il échangea quelques mots avec Gruffudd. L'homme au torque se tourna alors vers ses prisonniers.
« On bouge vers ce coin-là, »
dit-il en désignant le débarras de meubles où campait le géant.
« Maniez-vous !»
Et les deux gaillards leur ouvrirent la voie dans cette débauche houleuse. Soutenant toujours l'ermite, le frère sergent les suivit. À mesure qu'ils traversaient la salle, il eut l'impression de fendre un marais d'hostilité et de morgue. Avec le vieillard, il frôlait les chefs pillards et les filles perdues. Quelques catins se moquaient de leur épuisement et de leur crasse. Les malheureuses violentées détournaient les yeux, incapables peut-être de supporter le spectacle d'une nouvelle misère. Les chefs ouromans, quant à eux, scrutaient insolemment les prisonniers. Quelques-uns crachèrent à leur passage. D'autres ne leur décochèrent qu'un rictus de dédain. La plupart les toisaient comme si les deux captifs n'avaient été que des rebuts dont la simple présence représentait une insulte. Widmer avait presque l'impression de considérer cette scène de loin, comme s'il s'était regardé depuis le porche ou depuis le plafond. Sa vie ne tenait qu'à un fil. Il aurait suffi d'une lubie à l'un de ses bouchers pour que son sort fût scellé. Les prisonniers parvinrent cependant à l'autre bout de la pièce. Le colosse, qui n'avait pas bougé, posait une prunelle glauque sur le frère Hummel. Le jeune ouroman se tourna alors vers les marmitons qui faisaient rôtir le cochon et leur ordonna en léonien « Installez un autre siège sur l'estrade et apportez à manger à l'aïeul !» Bizarrement, les deux tournebroches étaient de jolis petits pages, vêtus de hauts de chausses et de pourpoints d'un goût exquis, dont l'entournure gauche était liée au buste par des rubans en bouffette. Les mignons s'exécutèrent avec grâce, débarrassèrent un fauteuil de son argenterie sale et, usant des coffres comme de marchepieds, hissèrent le meuble sur la table pour le disposer à côté de la cathèdre. Ils se hâtèrent de redescendre avec une discrétion de bon aloi, assez saugrenue dans l'étalage général de grossièreté. D'un bond, le jeune ouroman avait grimpé sur la table, et se tournant vers les captifs, il commanda « Montez ! Que l'ancien s'assoie à côté de moi !» Le frère sergent resta un instant interdit devant cette extravagance, puis se dit que ce douteux privilège confirmait son intuition à propos de l'identité réelle de l'ermite. Il sentait surtout la malveillance unanime de la salle qui pesait sur sa nuque et ses épaules. Il se résolut donc à obéir. En soutenant le frère Hummel, il tenta de l'aider à se servir d'un coffre comme d'un escalier. Mais l'escabeau improvisé était haut, le vieillard incertain sur ses jambes, et Vinmer épuisé. Les deux captifs vacillèrent de façon piteuse. Alors, le colosse à tête d'imbécile se leva et vint à eux. Il repoussa Vinmer sans brutalité, mais avec une force irrésistible. Puis, soulevant le patriarche comme un petit garçon, il le déposa en deux pas sur le tréteau improvisé. Le plateau de la table ploya sous le pied du géant. Avant de redescendre, l'ogre ébaucha un geste rapide, comme s'il avait voulu se toucher le front puis la poitrine avant de revenir au front. Le mouvement passa inaperçu des barbares, mais il stupéfia les deux prisonniers. Ils auraient presque juré que cet énorme païen venait d'esquisser le signe de la mandorle. Le plancher de toute la salle trembla quand le colosse sauta au sol. Vinmer le contempla, interloqué, en train de balancer ses énormes épaules comme il retournait s'asseoir sur son coffre. Le captif avait-il bien vu ce qu'il avait cru voir? Mais il n'était pas au bout de ses surprises, car soudain il entendit une voix d'enfant s'écrier
« Oh, est-ce vous, frère sergent ?»
Le regard de Vinmer tomba sur l'un des deux jolis pages qui s'attardaient à côté de lui. D'abord, il ne reconnut pas ce bel haut, si élégamment attourné dans son pourpoint à rubans et à galons. Et puis, le sourire de l'angelet perça son âme, tel un rayon de soleil au fond de l'abîme. « Milouin ? » s'étrangla-t-il éberlué.
« Oui, c'est bien moi, frère sergent. Ah, ça, pour une surprise, c'est une surprise !»«
Milouin ?» s'effara Vinmer, partagé entre l'émerveillement et la consternation.
« Ainsi, toi aussi, tu as été enlevé par les ouromans. »
Mais au moment même où il formulait ces mots, le vétéran sut qu'il se trompait. Comment ces barbares grossiers auraient-ils pu transformer le gentil petit manant en un varlet si exquis? Le garçon secoua la tête en riant.
« Oh non, frère sergent !»
rectifia-t-il.
« Personne ne m'a enlevé. J'ai été choisi. Je suis entré au service des aventureux du bois Oiselet. »
La gaieté du gamin se teinta de compassion.
« Mais vous, n'avez pas l'air en forme !» ajouta-t-il.
« Asseyez-vous donc sur un coffre au pied de l'estrade. Je vais revenir avec un morceau, et puis de quoi vous débarbouiller et vous penser. »
Vinmer voulut le retenir. Il brûlait de l'interroger sur ce qui lui était arrivé et sur ces mystérieux aventureux du bois Oiselet. Mais Milouin s'éclipsa plus vif qu'un écureuil. Il se faufilait déjà au milieu de la horde. Du reste, Il aurait été difficile de poursuivre la conversation, car un nouvel éclat soulevait l'assemblée des chefs ouromans. Beaucoup s'étaient dressés et vituperaient avec de grands gestes contre l'élévation de l'ermite sur la table. Le frère Hummel, tétanisé, se recroquevillait sur le fauteuil qu'on avait perché à son intention. À côté de lui, le jeune ouroman tenait tête à la meute avec plus de dérision que de colère. La cacophonie était telle que le frère sergent ne parvenait à comprendre que des bribes éparses. C'était, pour l'essentiel, des injures adressées par les brutes aux vieillards. Mais dans le discours du jeune barbare, il y avait parfois des mots hors de propos, comme « gloire »,« histoire » ou « immortalité ». L'algarade se calma progressivement. Les guerriers ouromans, l'air écœuré ou méprisant, se rasseyaient, souvent en tournant le dos à l'estrade improvisée. Le jeune chef au regard perçant occupa à son tour son haut siège, plein de morgue pour ses contradicteurs. Et Vinmer devina alors seulement à qui il avait affaire. Se penchant légèrement vers l'ermite, le gaillard aux yeux d'aigle marine reprit la parole en léonien.
« Désolé, mon vieux, » dit-il de façon familière en posant une cheville sur un genou. « Mais t'as un nom de sacré couille, mais pas de cervelle. »
Il se remit à vociférer dans sa langue, et cette fois Vinmer comprit qu'il réclamait à manger et à boire.
« Tu dois te faire une piètre idée de main court, » reprit le barbare sur un ton plus aimable, à l'attention du frère Hummel. « Au fait, inutile de nous présenter. Tu sais très bien qui je suis. »
Sans mot dire, le vieillard opina craintivement de la tête.
« Eh, ce n'est pas du chiquet, t'es vraiment augure, » ironisa le jeune chef. « Ça tombe bien, je n'aurai pas beaucoup de temps à te consacrer. Mes alliés se sont fait botter le cul par les ducaux, et Ganelon vient me chercher en personne. Il va falloir que je soigne l'accueil. Je vais bientôt partir à sa rencontre avec ma hirde et tous ces abrutis braillards. Donc, comme ta déesse t'a appris pourquoi tu es là, ça nous permettra d'aller à l'essentiel. »
La tête rentrée dans les épaules, l'ermite demeurait muet et évitait son regard. Cette attitude parut froisser le chef ouroman.
« Oh, tu es sourd? Tu m'as entendu ?»«
Je n'ai aucune idée de ce que je fais ici, »
chevrota le vieillard.
« Allons donc. Quelle foutaise !»
Des guerriers vinrent servir l'étrange duo. L'un d'eux posa assez rudement à leurs pieds un tailloir d'argent où un quartier de viande bleue baignait dans son sang. Un autre remplit un grand hanap et le tendit au jeune chef. Celui-ci, le saisissant par les deux anses, le porta brièvement à ses lèvres, puis se lécha les babines. Après quoi, il tendit la coupe au vieillard.
« Aval, » commanda-t-il, « la poussière de tous ces chemins, ça doit assécher la gorge. »
Non sans réticence, l'ermite prit le vase et y but par obligation avant de le rendre. Dans la salle, tous les regards convergeaient à nouveau vers le vieil homme. Vinmer perçut un regain d'hostilité d'autant plus inquiétant que, cette fois, il ne fut pas ponctué d'éclats de voix. Avec un sourire goguenard, le jeune chef ouroman éleva le hanap devant son visage et le contempla d'un œil cruel. Il s'agissait d'une lourde pièce d'orfèvrerie. Le récipient semblait fait d'ivoire, ansé et cerclé de métal précieux. Il était monté sur un large pied d'or, serti de gros cabochons.
« J'espère que le vin est à ton goût, » dit le barbare. « Nous l'avons trouvé dans les celliers que Ganelon réservait à sa table, pour la guerre qu'il avait l'intention de mener contre moi. »
Il se désaltéra à nouveau avec une délectation visible.
« Ne te méprends pas sur la colère de Méthane, » reprit-il. « Ils ne t'en veulent pas de siffler mon vin, mais de le licher à ma coupe.
Je n'ai aucune idée de ce que je fais ici, répéta le vieillard d'un air sénile.
Bien sûr que si. Tu es juste étonné. Peut-être même un peu effrayé que ce soit moi qui t'honore de la sorte.
Milouin réapparut sans prévenir à côté de Vinmer. Il portait une bassine de cuivre dans laquelle était posée une aiguière pleine. Ayant mis ses ustensiles à la disposition du vétéran, il remplit la cuvette d'eau claire, puis tendit les linges propres qu'il avait rapportés pliés sur son épaule.
« Lavez-vous et pansez vos plaies, » dit l'enfant. « Je vous aurais bien aidé, mais j'ai mille choses à faire. Je vais vous rapporter à manger. »
Et avant que le frère sergent pût le retenir, il avait à nouveau filé en direction de la cheminée et de sa broche. Tout d'abord, Vinmer hésita à se débarbouiller en présence de cette noblesse féroce. Toutefois, il était évident que seul le frère Hummel excitait les rancœurs. Le soldat consacré était pour l'heure complètement dédaigné. Prenant une serviette, il en mouilla un coin et commença à s'en tamponner le visage. Ce fut alors que, sur l'estrade improvisée, la conversation prit un tour extravagant.
« Car je t'honore, comme je n'ai jamais honoré personne. »
poursuivait le jeune chef barbare d'un ton badin.
« Personne. Ni Métan les plus puissants, ni même mon Drotte, quand il m'a sauvé la vie sur la montagne d'Ouotéo. »
En prononçant ces mots, il salua d'un hochement de tête le colosse à figure d'imbécile qui ne parut pas se rendre compte de l'hommage.
« Je suis le seul à avoir jamais bu dans ce vase, »
enchaîna Louroman.
C'est une coupe royale. D'une certaine façon, on peut même dire qu'elle m'est sacrée. »
Et se penchant d'un air amusé vers l'ermite, il insinua «
Avec tes talents d'augure, tu as sans doute compris à quelle fontaine nous nous abreuvons. »
« À la coupe d'iniquité !» osa marmonner le vieux prêtre.
Cette audace arracha un éclat de rire au barbare.
« C'est bien dit !» se réjouit-il. « C'est exactement cela. Il n'y avait que fiel et poltronnerie chez mon frère Giric. C'est dans sa méchante tête que nous venons de boire. »
Le frère Hummel dévisagea le jeune chef avec une expression hagarde, puis scruta le hanap que celui-ci brandissait toujours. Il devint alors évident que ce qu'on aurait pu prendre pour de l'ivoire était en fait une calotte d'os. Le vieillard fut secoué par une nausée et, affaissé sur ses genoux, vomit un peu de vin mêlé de bile. Un rire gros de mépris et de sauvagerie secoua la salle.
Hey, c'est que tu as l'estomac fragile,
compatit le jeune Ouroman en tapotant le dos de la sette.
« Rassure-toi, je ne t'ai rien servi d'indigeste. Tu as bu dans le crâne de mon frère, d'accord, mais tu ne l'as pas mangé. D'ailleurs, Giric n'était que mon demi-frère, un sale con, par-dessus le marché. Alors, tu vois, ce n'est pas si grave que cela.
Pourquoi me tourmenter ainsi ?
Bredouilla l'ermite.
Que vous ai-je fait ? « Je joue un peu avec toi, c'est vrai, »
concéda l'autre.
« Mais c'est juste pour que tu ne me fasses pas d'ombre, parce que moi, je sais très bien qui tu es. Il n'y a que ces crétins batailleurs pour s'arrêter aux apparences. Tu es vieux et je suis jeune. Tu es prêtre et je suis guerrier. Tu es faible et je suis fort. Tu es timoré et je suis impitoyable. Et alors, des détails tout cela. La vérité, c'est que nous sommes des pères, toi et moi. Nous sommes des gagnants. Nous laisserons dans les mémoires une trace plus durable que tous les ravages de mes carles assoiffés de sang.
Élevant son horrible calice, il s'écria d'une voix forte,
« Car je bois ton génie !» « Deux vins de Belcastel,
Vinmer en resta médusé. La stupéfaction engourdit même ses blessures que ses ablutions venaient pourtant de réveiller. Le nom qui venait d'être proclamé sonnait complètement farfelu, surtout claironné par un chef ouroman dans ce banquet barbare. C'était non seulement incongru, mais encore plus insensé que les hypothèses échafaudées par le frère sergent. Et pourtant, l'ermite ne réagissait pas. La peur et la répulsion avaient-elles inhibé à ce point son esprit de reparti? Le vieillard se tassait sur son siège, l'air plus accablé qu'abasourdi.
« Bien sûr, mes abrutis de Tan ne comprennent pas ce que tu figures, tout simplement parce que ce sont des abrutis. »
poursuivait le jeune chef.
« Ils ne voient en toi qu'un vieux débris, une lubie bizarre que je leur impose, une façon de les insulter pour leur faire sentir ma poigne. Et là-dessus, ils n'ont pas tort d'ailleurs. Mais ce qu'ils ne parviennent pas à voir, c'est le symbole que tu représentes. Ton nom est célèbre à travers tout le duché, et peut-être même au-delà. Toute la noblesse bromaloise est entichée de tes contes. Ta voix résonne aux quatre coins du pays, dans vos châteaux, vos maisons bourgeoises, les ateliers de vos sanctuaires. Ces grands seigneurs et riches marchands n'attendent de toi qu'une seule chose. Ils en piaffent d'impatience. D'autres histoires, d'autres contes, de quoi enchanter leurs veillées et leurs rêves. Or, toi, tu te tais. Tu as disparu. Nul ne sait ce que tu es devenu. Tu es un mystère qui leur échappe à tous. »
Le jeune barbare se rengorgea avec orgueil.
« Et qui a su te retrouver ? Qui a su te démasquer ? Le duc ? Ses duchesses ? Les comtes qui, jadis, t'ont même prêté leur nom ? Pas un de tous ces hauts personnages, non, non. Celui qui t'a ramené au monde des vivants, c'est le roi Hartclyde. Ferbasac. Capindulf a ressuscité devin de Belcastel. »
Il abattit sa main sur l'avant-bras de l'ermite qui frémit à ce contact.
« Toi et moi, nous sommes promis à un grand destin !»
s'exalta le chef barbare. Presque aussi interdit que l'ermite, Vinmer vit revenir vers lui le petit Milouin. Avec un grand sourire, le page lui rapportait un pichet de vin et un gros tranchoir de pain replié sur son travers de porc.
« Je ne suis plus personne, »
protesta faiblement le frère Hummel.
« Je n'ai jamais été plus que ce qu'on m'a prêté. »«
Eh bien, cela me suffit amplement, »
rétorqua le jeune roi Hartclyde.
« Car moi, je te prête beaucoup, à hauteur du crédit que t'accorde la noblesse de Bromel. » Sans même parler de la faveur de ta protectrice. »
Le vieillard ferma les yeux. Il paraissait presque plus atterré qu'épouvanté.
« D'où me connaissez-vous »
soupira-t-il.
« Comment m'avez-vous trouvé ? » ?»« Il serait difficile de ne pas avoir entendu parler de toi. Tu sais, il m'arrive de négocier avec des nobles venus de Kimark ou de Brockmel. » Quand on se met à parler d'autre chose que de guerre et de tribus, ils n'ont que ton bel églantier à la bouche. Par contre, te dénicher était une toute autre affaire. Mais la fortune m'a souri.
Se penchant brusquement en avant, Ferbasac interpella Milouin.
« Hé, gamin, où est passé ton maître ?»«
Il est sorti, sire. » »«
Encore ?» Alors que la fête bat son plein, il va finir par me vexer. Qu'est-ce qu'il m'indigance dehors ?
Je crois qu'il est en quête d'enfants.
Quoi ? Ce n'est que cela. Des gosses, je lui en donnerai des tripotés. Va le chercher et débrouille-toi pour me le ramener en vitesse. Je veux qu'il salue notre invité avant que j'endosse l'armure.
Le petit varlet salua avec grâce et, non sans décocher un regard d'excuse au frère Vinmer, s'empressa de disparaître.
« Il a la classe, hein, ce Minella,
commenta le chef barbare.
Tu l'as déjà vu, non?
Ses maîtres sont-ils ici?
Sentit l'ermite avec consternation.
Ils étaient de passage, oui. Deux d'entre eux sont repartis. Tu les connais, de vrais courants d'air. Mais Ameline est restée.
En tout cas, ce sont eux qui m'ont parlé de toi.
Une lassitude résignée parut accabler le vieillard.
Dès qu'ils m'ont salué, j'ai su que leur visite serait une malédiction.
Soupira-t-il.
Comme tu y vas, je fais de toi mon hôte d'honneur, et tu médis de nos amis communs.
Le rictus du frère Hummel fut éloquent sur son opinion à leur sujet.
Vous seriez avisé de vous en défier,
marmonna-t-il.
Qu'ils aient réussi à gagner les faveurs d'un homme tel que vous en dit long sur leur sortilège.
L'avertissement n'eut pas l'air d'inquiéter le roi Hartclyde.
« Oh, je ne suis pas dupe, » lança-t-il avec légèreté. « Je connais bien ces tours d'elfes et je vois clair dans leur jeu. Je les ai reçus avant tout parce que ce sont de lointaines relations. »
Cette remarque formulée en passant parut tirer le vieillard de son abattement.
« Vous les avez déjà rencontrés ?»
releva-t-il en tournant son visage là vers le chef barbare.
« Bien sûr. » C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont venus me faire des politesses, comme ils les avaient faites avec toi. Devin. Devin, tu te laisses aller, qu'as-tu fait de ta sagacité? Je t'en ai pourtant dit assez pour que tu vois clairement ce qui nous lie, toi et moi.
Où les avez-vous rencontrés? Demanda l'ermite avec un regain d'inquiétude.
À ton avis? Je te le répète, nous sommes des pères, toi et moi. Nous sommes des gagnants. Nous avons traversé les apparences et voyagé très loin. Nous avons été choisis. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et nous avons remporté la partie. Tu sais très bien de quel jeu il s'agit.
De la main droite, le jeune guerrier remonta sa manche gauche. Quelques bracelets habillaient son poignet. Mais sur son avant-bras vigoureux, marbré de tatouages, s'enroulait également une délicate bande de soie galonnée de fils d'or et d'argent, un peu effilochée par l'usure. Le frère Hummel eut un mouvement de recul, comme s'il venait de découvrir une vipère entortillée autour du bras de son voisin.
« Et toi, où elle tient ?»
s'enquit le roi Hartclyde.
« Je ne l'ai plus.
Quoi ?» Après tout le mal que tu t'es donné pour l'obtenir, tu ne l'as pas perdu quand même, ni jeté.
L'ermite branla négativement de la tête, l'expression mortifiée.
Non, je n'ai pas pu. J'ai voulu le brûler, mais j'en étais incapable.
J'en ai fait offrande à la divinité il y a des années. À l'issue de la fête du bain de la déesse. Bigot jusqu'à la renonciation,
ricana Ferbassac.
Et ça a marché? Tu t'es senti plus pieux après ça?
Je ne me suis senti ni mieux, ni plus mal, juste plus proche de la vérité.
Le chef barbare haussa les épaules avec une moue de dédain. Puis, retrouvant le sourire, il reprit, plein d'enthousiasme.
« Si tu es en quête de vérité, en voici une qui vaut le détour. Nous avons tous les deux gagné le jeu du ruban. Et Sumardis nous a élus. Sumardis, c'est comme ça que nous l'appelons dans les montagnes au Garstein. Comment est-ce que vous l'appelez, vous? La Lissandière, non? Peu importe. Toi et moi, nous savons que ce n'est pas son vrai nom. Et pour ne rien te cacher, j'ai eu les premiers échos de ton œuvre avant que les seigneurs bromalois viennent me fatiguer les oreilles avec tes histoires. C'est elle qui m'a parlé de toi. Ça l'amusait beaucoup, le succès de ce roman dont elle t'avait passé commande. À l'époque, j'étais un peu jaloux de ta faveur, alors que je ne t'avais jamais rencontré. Mais merde, c'était vexant. Pour la saison, j'avais gagné le droit d'être son préféré à elle. Et toi, tu me faisais de l'ombre. Elle ne t'avait pas oublié.
Ferbassac envoyait une claque sur l'épaule du vieillard, en modérant toutefois sa force.
« Ne t'inquiète pas, va. C'est du passé. Il y a belle lurette que je ne t'en veux plus. »
Plus tard, quand des grands seigneurs bromalois ont cherché à m'épater en récitant une aventure de ton bel églantier,
ça m'a bien fait marrer. Ces cons bouffis de suffisance croyaient m'en mettre plein la vue en faisant étalage de leur culture. Et moi, en restant motus sur notre secret, je leur rendais tout leur mépris.
Ah, la gueule qu'ils vont tirer tous quand ils apprendront que je t'ai retrouvé.
Et vous prétendez que vous ne m'en voulez plus ?
Déplora le frère Hummel. Ferbassac partit d'un nouveau rire.
Oh, juste un peu, mais la blague est plutôt drôle. Non ? Et puis je te rends service. C'est quoi cette tanière de bête où tu t'es fourré ? Je te remets le pied à l'étrier. Je t'offre l'occasion de te refaire.
Curieuse façon de traiter un trophée. D'ailleurs, est-il bien avisé de m'exhiber comme vous le faites ? Vous exciterez la haine de tous les mondains qui ne jurent que par le bel églantier.
Eh, c'est tout l'intérêt de la chose. Que je crève quelques-uns de ces grands seigneurs, rien que de très banal, ils me buteront quelques tonnes en retour, mais que je leur souffle leur poète favori. La claque ! Ça va les faire écumer. Ils vont tous m'en vouloir à mort. Je vais y gagner une de ces auras. Chez mes clans comme chez les Bromalois. Et tu connais l'adage. La valeur d'un homme se mesure au nombre de ses ennemis.
Le vieillard fit le signe de l'amant d'Orle d'une main tremblante.
En fait, vous n'avez jamais abandonné la partie de jeu du ruban, murmura-t-il.
Vois où cela m'a mené.
Je distingue aussi où cela vous mènera.
Le jeune barbare haussa les épaules.
Pourvu que ce soit une belle fin,
éluda-t-il. Tiens, je vais peut-être y passer ce soir ou demain, en affrontant les ducaux. Je compte bien la gagner, cette bataille. J'ai préparé un bon tour à Ganelon. Mais ça peut tourner de travers. Et dans ce cas, je risque de rester sur le carreau. Bon. Et alors, c'est le jeu. Même si je perds, j'y gagnerai quelque chose. On se souviendra de moi.
Comme d'un vaincu. Il y a des vaincus qui deviennent des légendes.
Se rapprochant du vieillard d'un air complice, le roi Hardclyde s'enthousiasma.
Et c'est là qu'on fait la paire, toi et moi. Peu importe ce qui nous attend, et tant mieux si ça se gâte. Je me charge de l'histoire. Et tu la racontes. Je fais couler le sang, et toi l'encre. Le bruit qu'on va faire à nous deux, le roman de Ferbassac par Devin de Belcastel. Ça a de la gueule, non? Ça va remonter jusqu'à ses oreilles à elle. Et tu verras qu'elle continuera à rêver à nous, au lieu de pouponner ses nouveaux jouets.
Je ne suis pas sûr d'être à l'aise avec cette idée.
Ne fais pas ton cagot. Ne me dis pas que tu ne bandes plus en pensant à elle.
Il y a longtemps que je me suis détaché des tourments de la chair,
répondit l'ermite d'un air un peu pincé.
Et de toute façon, mes rapports avec cette Armide ont toujours été d'un autre ordre.
« Arrête, Devin, tu me fais de la peine. À quoi ça rime d'avoir vécu longtemps si on n'en a pas profité ?»
Cependant, Ferbassac ouvrit les mains d'un air accommodant.
« Mais peu importe, »
concéda-t-il.
« Je te respecte.
Tu avais trouvé le truc pour qu'elle ne t'oublie pas, et ça, c'est fort. J'admire, sincèrement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai besoin de toi. Ces longs impacts, toi et moi, et on deviendra deux fois plus vivants. Je crains que vous ne vous leurriez sur l'étendue de mon art, marmonna le frère Hummel. De toute façon, vos hommes savent-ils lire ? Tu rigoles ? Bien sûr que non. Moi non plus d'ailleurs. Et alors ? Dans ce cas, quel usage aurez-vous de ces chroniques ? Les clans ne manquent pas de bardes ni de scaldes. Tu leur apprendras ton livre par cœur. Avez-vous envisagé la possibilité que je ne parle pas votre langue ?
Comme le barbare haussait les épaules, l'ermite prévint son objection.
« Oui, oui, j'ai compris, »
grommela-t-il.
« Il suffit que je l'apprenne. »
Ferbassac lui adressa un rictus ravi. Mais le frère Hummel, quoiqu'il parût toujours frêle et exténué, semblait avoir retrouvé une étincelle de volonté. Les lèvres serrées, il branlait doucement du chef d'un air rétif.
Le premier commandement de la déesse est d'affronter la vérité, reprit-il. Et je dois vous reconnaître un grand mérite. Vous me mettez à l'épreuve de la vérité. Vous me parlez avec tant de franchise qu'il serait indigne de vous cacher le fond de ma pensée, bien que cela risque fort de vous déplaire et de me nuire.
Ah! Voilà qui commence mal. Mais rassure-toi, j'ai de la considération pour les gens qui osent me tenir tête.
Vous tenir tête? Regardez-moi. Je n'en ai ni la force, ni le courage. C'est d'ailleurs cela que je dois vous dire. Le lettré ingénieux et mondain à qui vous croyez parler n'est plus de ce monde. Il y a de cela bien des années, j'ai dépouillé son talent en même temps que sa vanité. Devin n'est plus qu'un nom, un souvenir qui s'étiolera dès que son œuvre passera de mode, un fantôme dont ne subsiste déjà plus que l'empreinte écrite. Je suis Hummel, le plus pauvre des serviteurs de la divine sagesse. L'art, la folie et le temps me font défaut pour honorer votre commande.
Allons, tu dis ça parce que tu es fatigué. Un repas chaud, une bonne nuit de sommeil et tu verras les choses sous un autre jour.
Vous avez raison, je suis très las. Las de l'orgueil, de l'envie, de la colère et du goût du lucre. Là de l'agitation du siècle et de ses chimères. Qu'est-ce qu'une œuvre ? Une pénible gésine. Un article de foire. De la fumée. Rien qui vaille de se détourner de la sérénité et de la prière.
Quoi ? Ce n'est que cela ? Ne t'en fais pas, je t'arrange le coup. Je t'offre une maison. Tu n'auras qu'à faire un tour en ville, je te laisse choisir laquelle. Je te fournis aussi les serviteurs. Affranchis-les si l'esclavage froisse tes principes. De toute façon, je les ferai tuer s'ils quittent ton service. Et puis, pour veiller sur ta tranquillité, je mettrai même quelques carles à ta disposition. Tu auras une paire royale. Tu pourras prier tout ton sou, pourvu que tu m'écrives aussi mon roman.
Une cage, fût-elle dorée, n'a rien d'un oratoire.
Le chef Ouroman leva les bras au ciel avec une expression offensée.
« Mais qu'est-ce que tu me racontes ? » se récria-t-il. « Tu es mon invité, et même un invité de marque. Tu n'es pas mon prisonnier. Le tan du Farbog a été un peu brusque avec toi. Ah ! Il faut l'excuser. » Il a plus l'habitude de faire des prisonniers que des politesses. Mais mes conquêtes sont tes conquêtes. Mon butin est ton butin. Tu
Tu es presque mon frère. Considère que tu es ici chez toi. La liberté fait-elle partie de vos libéralités?
Bien sûr, tu es un homme libre.
Tu décideras ce que tu voudras.
Comme moi, je décide ce que je veux.
Le ton un peu trop appuyé sur les dernières paroles fit scier l'ermite, qui se recroquevilla davantage sur son fauteuil. Au même moment, un tumulte remonté du rez-de-chaussée résonna dans les escaliers. Quelques carles lourdement équipés firent irruption dans la salle. Leur meneur fendit les convives pour marcher droit vers Ferbassac. Sanglé dans une broigne aux écailles brillantes et doté d'armes aussi riches que les tannes de Ferbassac, ils ne leur cédèrent rien en férocité. Mais ils se distinguaient nettement des autres ouromans. De type plus brun, son crâne était étrangement allongé, ce qui lui donnait un front démesuré et étroit. Plus marquant encore, sa manche droite était vide, et à cause de la perte de ce bras, son baudrier d'épée était porté du même côté. À peine arrivé au pied du roi Hartclyde, le manchot aboya quelques mots sur un ton pressant. Ferbassac fit la moue, puis lança des ordres au colosse installé non loin. Le géant hocha la tête avant de se lever. Il ramassa une grande hache de bataille et quitta tranquillement la salle. Il n'avait pas franchi le seuil que le roi Hartclyde, redressé de toute sa taille, criait des paroles véhémentes. Un rugissement terrible lui répondit. Jetant leurs coupes et leurs plats, cet âne s'était levé comme un seul homme. Il vociférait, le mufle écumant, épée et hache brandie, faisant trembler le plancher sous un piétinement furieux. Le tumulte fut repris au rez-de-chaussée par la hirde qui occupait la halle voûtée et les arcades. Et bientôt toute la maison aux échevins trépida de ce séisme guerrier, les carreaux des fenêtres grelottant dans leurs croisillons de plomb. Effaré, l'ermite se protégeait les oreilles de ses mains noueuses et les paupières baissées récitait d'inaudibles prières. Quant au frère sergent, subjugué par ce déferlement de colère, il ouvrait des yeux écarquillés. Dans ses clameurs, il retrouvait l'écho corrompu des charges de sa jeunesse et surtout l'effroi du vacarme ennemi. Au milieu de cette effervescence, le roi Hartclyde se fit apporter ses armes. Deux guerriers vinrent l'aider à revêtir son armure. Ils le sanglèrent dans une brigandine ornée d'un grand pectoral doré en forme de tête d'ours, puis ajustèrent des brassards articulés d'un acier presque noir, d'une facture exotique, étrangère aux équipements ouromans et bromalois. Ferbassac ceignit ensuite un gros ceinturon d'armes au fermail orné de pierres précieuses, auquel étaient suspendues une épée large et une hache à tête de marteau.
« On reprendra cette conversation plus tard !» lança le jeune chef au frère Hummel. Mon ami le voïvode Géza vient de m'annoncer que des éclaireurs ennemis approchent du pont d'Aberbeychan. Ganelon a l'air pressé d'en découdre. Ce serait impoli de le faire attendre. »
L'ermite, qui gardait les paumes plaquées sur ses oreilles, ne donnait pas l'impression de l'avoir entendu. Cela n'eut pas l'air de formaliser le roi Hartclyde. Tout en passant ses gantelets à la ceinture, il se fendit d'un large sourire en direction de la porte de la salle. À contre-courant des tannes qui commençaient à sortir, se profilait un visiteur d'une prestance complètement décalée. La main posée sur l'épaule du petit Milouin, l'étrange personnage venait d'entrer dans les lieux. De la même taille que la plupart des barbares, sa silhouette longiligne le faisait paraître plus grand. Son pourpoint raffiné, brodé d'un motif de plumage stylisé, jurait avec les broignes épaisses, les tartans criards et l'étalage de bijoux barbares. Le nouveau venu pointait vers la salle du conseil un bec noir, ayant couvert son visage sous un masque de pie, dont les plumes s'allumaient de reflets bleutés. Cet excentrique remontait tranquillement la bousculade des tannes, comme si un passage fugace s'ouvrait devant lui avant de se refermer sur ses talons.
« Ah ! Voici mon drôle d'oiseau !» s'écria Ferbassac.
Arrivé au pied de l'estrade, l'échassier esquissa un salut dont la frivole élégance tranchait si bien de la rustrerie qu'elle respirait l'insolence.
Et le voilà, Hamelin,
s'esclaffa le chef barbare.
Comme d'habitude, il me répond à contre-temps. Tu as de la chance que je t'ai à la bonne.
Je vous donne l'occasion de me prodiguer des marques d'amitié à chacun de vos pardons, répliqua le nouveau venu sur un ton badin.
Aujourd'hui, c'est à quelqu'un d'autre que tu dois des excuses. Voilà donc qui vient banqueter ce soir.
Mon gentil page est venu me l'annoncer. Ôtant son masque, l'élégant adressa une courbette au frère Hummel. La finesse de son visage, d'une jeunesse intemporelle, se trouvait affilée par une pointe d'âpreté. Ses prunelles d'ambre, pailletées de poussière d'or, ressemblaient aux pupilles d'un loup.
« Quel plaisir de vous revoir, cher maître. Avez-vous apprécié le voyage ?»
L'ermite, qui avait rouvert les yeux, considérait l'elfe avec un mélange d'hostilité et d'effroi.
« Ainsi, c'est vous qui êtes derrière tout cela, »
souffla-t-il.
« Je crains de vous décevoir, »
répliqua gracieusement le chevalier au pie.
« Certes, je reconnais qu'étant de passage à la cour de notre ami, j'ai brièvement évoqué votre nom. Mais que vous soyez ici est la rançon de votre réputation. »
« Voici bien votre légèreté ordinaire, »
rétorqua le frère Hummel. « Non content de troubler ma retraite, vous l'avez vendu, sans vergogne.
Vendu ? Un mot discourtois. Je l'ai donné. » Avec prodigalité.
Prodigalité, le terme est joli. D'abord, vous m'avez mis dans un terrible embarras en attisant la curiosité du sire de Vaumacelle à propos de mon ermitage. Ensuite, vous m'avez envoyé ce ménestrel insolent, ce trouvère de duire riguin qui fait mine de s'encanailler dans des compagnies de batteleurs. Pour couronner le tout, vous m'avez livré à ces brutes qui, après avoir manqué de me tuer, m'ont enlevé et me jette dans les griffes d'un chef païen.
Il a le titre de roi.
Mais sachez que je suis moi-même étonné de vous croiser en ces lieux, car au milieu de tous les travaux guerriers de notre hôte belliqueux, je ne concevais guère qu'il fût d'humeur à vous convier à sa fête.
Le frère Hummel se prit la tête entre les mains, avec une expression encore plus consternée que désespérée.
« Vraiment ? Ça te dérange tant que ça que je fasse de toi la voix de mon épopée ?»
lui demanda le roi Hartclyde d'un air un peu froissé.
« Je me suis retranché du monde et vous me demandez d'emboucher les trompettes de la renommée. »
se désola l'ermite.
« C'est ton destin ?»
décréta Ferbassac.
C'était déjà ton destin bien avant ma naissance. Quand Sumardis t'a choisi, tu devrais être fier au lieu de te plaindre. La plupart des hommes sont dépourvus de destinée, et ceux qui en possèdent une ont souvent un sort plus dur que le tien.
Le destin,
ricana le frère Hummel. Malgré la peur, il se redressa sur son siège et brandit un index doctoral.
Pour être roi, Ferbassac ap Indulf, vous n'en avez pas moins les idées courtes. Vous étiez jaloux de la faveur que m'avait conservée l'enchanteresse. Ne vous en prenez qu'à vous-même. Sans doute la dame des futaies bleues admirait-elle votre orgueil, votre force et la certitude que vous aviez d'un grand destin. Mais c'est surtout l'étroite tesse de vos vues, mariée à tant de présomption qui devait l'amuser. Sachez que la déesse, quant à elle, nous enseigne que la nécessité n'est que l'une des forces qui gouvernent nos existences. Il en est d'autres, comme la foi, la raison, la justice, la beauté et la contemplation, et toutes offrent des chemins de liberté. D'ailleurs, dans votre vocation de conquérant, n'entre-t-il point de la foi et une volonté qui sublime vos mœurs païennes?
Ce que vous appelez le destin n'est que le linge assez mince dont vous habillez vos sanglantes ambitions. Et vous voudriez asservir un talent que j'ai perdu pour brosser un tableau si grossier.
Devin, je t'ai commandé un roman. Pas un prêche, un roman.
Tel est le nom que vous donnez aux dithyrambes et aux panégyriques.
C'est quoi ça? De la magie?
Le plus grossier des illusionnismes, celui qui aveugle en prétendant éblouir.
Ça m'a l'air pas mal. Si c'est le truc que tu as déjà utilisé, je suis preneur.
L'art que j'ai mobilisé était tout autre. Sous couvert de divertissement, le roman du bel églantier n'était que miroir des vanités. À travers la farandole des morts et des vivants, j'ai tendu une psyché à mon lecteur afin qu'il y contemple en pied sa finitude, ses frivolités et ses ridicules. Que cette satire m'ait conféré un tel prestige est la plus folle des ironies. Appliquée à votre personne, je doute que le procédé satisfasse vos attentes. Mais vous n'avez rien à craindre. La contemplation des divins mystères m'a détourné depuis longtemps de la peinture de mes semblables. Désormais, je ne sais plus louer que le silence, l'effacement de soi et l'absence de passion.
Ce discours ne suscita que des regards vides chez les ourmans encore présents, qui de toute façon ne parlait pas forcément le léonien.
Vous mettez encore beaucoup de chaleur dans vos laïus de poète,
releva aimablement le chevalier au pied.
Cher maître, vous avez là un beau sujet pour un ouvrage lyrique.
Le roi Hartclyde, quant à lui, avait l'air moins enthousiaste.
Je n'ai plus le temps de causer de tout ça,
édicta-t-il avec un rien de détachement.
Mon miroir des vanités à moi marche sur cette ville, bardée de chevaux et d'acier. J'espère juste que tu ne me prends pas pour un imbécile, Devin. J'ai bien saisi l'esprit de ta leçon, et je vais la mettre en pratique. Dans un sens, tu n'as pas tort. Je pense que je vais te garder près de moi pour m'en souvenir.
Sans manifester davantage d'émotion, il tira l'épée du fourreau, en égorgea le vieillard d'un geste rapide. Une giclée de sang éclaboussa le frère Vinmer et le chevalier au pied. Le chef barbare se pencha sur l'ermite, qui, la bouche ouverte et les yeux exorbités, essaya d'étancher des deux mains le flot écarlate jailli de son cou.
« Tu vois, je t'ai compris, et je suis généreux »,
se flatta Ferbassac en plantant son regard dans celui du mourant.
Je t'accorde ce que tu m'as demandé, le silence, l'effacement de soi et l'absence de passion.
Un deuxième coup d'épée décapita le vieillard en lui tranchant les doigts et laissa une profonde entaille dans le dossier du siège. Un mugissement joyeux souleva l'étane qui n'avait pas encore quitté la salle.
Une démonstration du plus bel effet qui coupe court aux critiques,
estima l'elfe, en considérant d'un air un peu contrarié les taches écarlates des parents sa tenue.
Mais l'argument n'est-il pas trop
littéral?
C'était son destin,
ricana le roi Hartclyde en essuyant sa lame. Il répéta son propos dans sa langue, et ses tannes approuvèrent bruyamment. Pendant un instant de sidération absolue, Vinmer dévisagea la tête de l'ermite qui venait de rouler à ses pieds. Puis, avec un sursaut de rage, il bondit sur pied, sauta sur la table et attaqua le roi barbare à main nue. Mais il était à bout de force, et cet assaut ne surprit pas le jeune ouroman. Sans même se donner la peine de férir, Ferbassac repoussa son assaillant d'un coup de pied. Le frère sergent n'eut pas l'occasion de revenir à la charge. Quelques tannes lui tombèrent dessus et le maîtrisèrent. Déjà l'acier de plusieurs armes s'apprêtait à lui fendre le crâne. Mais la fureur du vétéran était telle qu'il n'en avait plus que faire.
S'il se débattait en hurlant des choses incohérentes, c'était juste pour pouvoir frapper le criminel avant de le rejoindre dans la mort. D'un mot prononcé dans sa langue, le roi Hartclyde suspendit les épées et les haches sur le point de s'abattre.
« Calme-toi, »
ordonna-t-il froidement. Vinmer lui cracha à la figure et continua à vociférer des malédictions jusqu'à ce qu'un poing lesté de bague vint s'écraser sur son visage.
« Calme-toi, »
répéta le chef barbare en essuyant les glaires sur sa joue.
« Fais-le au moins par respect pour le défunt. »
L'énormité du propos, plus que la violence du coup, étrangla les cris de Vinmer dans sa gorge.
« Tu lui dois bien ça, à l'ancien, parce que c'est grâce à sa mort que tu auras la vie sauve. »
poursuivit tranquillement le roi Hartclyde.
« Si je péris dans la bataille, tu seras libre dès demain. Si je l'emporte, je t'échangerai un de ces jours. Tu témoigneras alors de ce que tu as vu. Tu l'as entendu comme moi, le vieux n'était plus qu'un rameau stérile. » C'est malheureux de traîner comme ça quand on n'est plus bon à rien. En le tuant, je lui ai rendu service. Devin de Belcastel ne pouvait plus chanter Ferbassac. Ferbassac a glorifié Devin par le fer. À la fin, on en fera quand même des chansons. Et nos deux noms resteront liés. Toi, tu seras le messager.
C'est en fait apporter la tête de l'ermite par l'un de ses hommes, le roi barbare la soupesa.
« C'est marrant, » dit-il. « Elle est plus petite que celle de Scouillon de Girinc. Si Aaron me prête vie, je la garderai et je la ferai sertir en coupe. Comme ça, je continuerai à boire les paroles de Devin de Belcastel. »